Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Tu vas bien ?
Oui, merci.
Pour nos auditeurs, je précise qu'on va se tutoyer pendant cet entretien parce qu'on se connaît un petit peu. Tu es auditeur de The Meta News.
Oui, depuis...
Enfin, lecteur, pardon, excuse-moi. Lecteur de The Meta News.
Oui, depuis quasiment le début.
Ok, très bien. Bon, on y reviendra un peu plus tard. On prend le bus ?
Oui.
Voilà, on va rester debout. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as pris le bus, Nicolas ?
Oui, c'était en 2015,
okay.
Quand le bus n'était pas aussi fréquent.
D'accord.
Et que bah, le campus de Centrale Supélec était plutôt mal desservi par les transports en commun.
Ouais. Est-ce que ça te faisait peur un peu d'aller sur le campus de Saclay, un peu au milieu de nulle part ? Est-ce que tu connaissais déjà peut-être ?
Non, je ne connaissais pas du tout. Ça m'a fait très bizarre le jour où je suis arrivé avec mon père pour m'installer dans la résidence où le chemin c'était de la gadoue un peu. Du coup, oui, je me demandais où j'arrivais.
Oui, c'était encore le chantier quoi, au milieu
c'est
des
ça,
travaux.
Oui.
Toi, tu es en quelle année de doctorat ?
J'ai commencé ma troisième année de doctorat.
D'accord, donc bientôt la rédaction peut-être ?
Oui, il va falloir s'y mettre bientôt.
Est-ce que tu peux nous dire en une phrase ou deux sur quoi tu travailles ?
Donc je travaille sur la modélisation d'une technique de caractérisation des matériaux utilisés, donc des matériaux semi-conducteurs utilisés pour le photovoltaïque.
Ok, d'accord. Donc a priori, quelque chose de très utile pour l'avenir.
On peut espérer.
Ok. Et donc depuis 2015, est-ce que tu as réussi à t'y faire un peu à cette vie sur le campus de Saclay ?
Oui.
Tu as dû voir aussi beaucoup de transformations, non ?
Oui, beaucoup de transformations sur le campus. Et bah, du coup, oui, on s'y fait, quoi. C'était longtemps les travaux, là ça va mieux quand même. Même si les travaux sont pas tous finis.
Ouais. Et là tu sors d'une période de télétravail un peu longue.
Oui.
Est-ce que tu es content de reprendre le chemin du labo ?
Oui, je suis très content de retourner au labo. Ben, j'étais en travail à distance en novembre-décembre. Et puis avant. Au printemps, donc de la mi-mars à la fin juin. Et bah donc les premières semaines de novembre, ça a été. Et après, bah c'est vrai que j'étais un peu démotivé par manque de lien social, envie de voir des gens.
Ouais. Ouais, je comprends tout à fait, c'est pas forcément facile de garder la motivation quand on est tout seul chez soi.
C'est ça.
Et tu pouvais garder un lien avec tes collègues de travail quand même ?
Bah, par visio,
ouais.
De temps en temps, qui était assez rare.
D'accord. Oui, et puis c'est pas pareil, on raconte pas des choses peut-être anodines, mais qui au final sont importantes pour créer du lien social. Quoi.
C'est ça, et dès qu'on se pose une question, qu'on a envie de demander... de parler à quelqu'un, bah, faut faire la démarche, soit de sortir son téléphone portable, d'aller sur le logiciel de visio, de l'appeler, d'envoyer un mail. Ça demande beaucoup plus d'engagement
oui.
Que simplement aller dans le bureau d'à côté ou boire un café avec quelqu'un.
Exactement. Et du coup, ça veut dire aussi reprendre les expériences pour toi ? Parce que toi, tu fais de l'expérimental, c'est ça ?
Non.
Non,
non, moi, je fais pas d'expérimental. C'est pour ça que j'étais pas dans les publics prioritaires pour retourner au labo et que j'ai pas pu y aller pendant la période de confinement.
D'accord, ok, je vois mieux. Du coup, qu'est-ce que tu fais dans le bus, toi, d'habitude ?
Je lis. Soit le magazine de la CGT, soit des bouquins.
Okay.
Là, je suis en train de lire Donc un roman, L'Enfant de Jules Vallès.
D'accord. Est-ce que c'est un rapport avec la recherche ?
Non, aucun.
Ok, d'accord. Mais ça fait du bien aussi de lire des choses qui n'ont pas de rapport.
Oui. Et puis ben, ça participe à, quand même à comprendre un peu la société et le monde, quoi.
C'est important pour un chercheur de comprendre le monde qui l'entoure et pas seulement la science et la recherche.
Je pense, oui. D'avoir une certaine ouverture d'esprit. Et puis, enfin, les démarches intellectuelles peuvent être similaires également. Et de toute façon, il n'y a pas de sujet de recherche qui existe en dehors de la société.
Ben, les mathématiques, par exemple, c'est très abstrait. On peut considérer que c'est juste purement des choses abstraites qui n'ont pas de rapport avec les hommes.
Et même les mathématiques, c'est fait par des hommes. Et les sciences, c'est aussi une histoire sociale. Mmh. Donc il y a ce lien quand même avec la société, justement des hommes qui font la science.
Ok. Et donc ça t'intéresse un peu l'histoire des sciences ?
Ben, l'histoire des sciences et l'histoire sociale des gens aussi. Comment la société elle a évolué ces derniers siècles, ces dernières décennies. Pourquoi parfois la société change, pourquoi il y a des crises. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de l'histoire.
Et est-ce que tu penses que la science est forcément une bonne chose pour la société ?
Ouais.
Question piège pour un scientifique.
Bah, je pense qu'on a... Ouais. La science ne fait pas de mal en elle-même. Et que bah, pour imaginer la société de demain, on a quand même besoin d'un peu de science, que ce soit, enfin, surtout dans la société dans laquelle on est, il y a plein de... La science, elle est partout. Les technologies, elles sont partout. On a aussi besoin des sciences sociales et humaines pour comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau économique, politique. Et après, est-ce que la science est toujours bonne ? Je ne pense pas.
Oui, pour s'il y a des auditeurs un peu perdus, on fait référence un peu à tous les débats qu'il y a eu autour de ce que la science peut apporter de mauvais éventuellement à la société. Il y avait un mathématicien très connu qui était Alexandre Grothendieck, qui a d'ailleurs beaucoup travaillé à Orsay une bonne partie de sa vie. Et donc toi, tu as lu certains de ses écrits, enfin des rapports de conférences qu'il a faites et qui t'ont un peu marqué. Si tu veux en parler.
Oui, effectivement, j'ai lu donc une conférence qu'il a donnée qui s'appelle approximativement « Va-t-on continuer la recherche scientifique ?» Et donc ça, je l'ai lu au printemps, justement au moment du confinement, plus ou moins. Et oui, c'est quelque chose qui m'a marqué, dans le sens où il y a des questions que je me posais, que je voyais, elles avaient presque 50 ans et que voilà, le fait que des gens de l'intérieur du système bah, le critiquent aussi parfois très, très fermement.
Oui, parce que c'est fort quand même le message qui fait passer, c'est est-ce qu'on ne devrait pas arrêter de chercher parce que ça fait peut-être plus de mal que de bien. C'est quand même, quand on fait de la recherche, c'est assez choquant, quoi.
Oui, et donc lui, c'était à l'époque de la guerre froide, et son principal problème, c'était le militaire, où il voyait que beaucoup de recherches, et en particulier dans les maths, qui était son domaine, bah, les recherches étaient financées et se faisaient pour le militaire. Et bah, lui, ce qu'il craignait un peu, c'était que ça serve à faire des bombes, qui puissent tuer très largement. Et donc bah, la situation elle n'a pas vraiment changé. La place du militaire dans la recherche est toujours un financeur important. Mm-hmm. Et Mais aujourd'hui, il y a aussi d'autres questions. Et c'est aussi un livre que j'ai lu au printemps, que j'avais commencé avant le confinement, de Philippe Biwix, sur l'âge des low-tech. Mm-hmm. Où, là, c'est pareil, lui, il critique aussi le fait qu'on ait de plus en plus de produits high-tech, de plus en plus de technologies partout, et qu'on ne s'intéresse pas à l'impact écologique de ces produits.
Donc notamment au niveau des matières premières, si je me souviens bien, c'est-à-dire tous les composants qu'il y a dans son téléphone portable, par exemple, c'est des matériaux rares qu'on a besoin d'aller chercher, donc d'extraire de la terre. Ça prend déjà beaucoup d'énergie pour le faire et ça peut briser des écosystèmes. Et tout ça, en fait, on ne le sait pas quand on achète un téléphone portable, par exemple.
C'est tout à fait ça.
Et toi, c'est un peu ton domaine de recherche au final, parce que tu travailles sur les matériaux, sur le photovoltaïque. Alors, c'est pas des matériaux qui sont forcément dans les téléphones portables, mais c'est aussi des matériaux rares, non?
Tout à fait. Okay. Et donc, effectivement, ça ne fait pas partie de mon sujet de recherche, mais il y a des questions qui se posent sur quels matériaux on utilise, on peut utiliser si on veut développer largement le photovoltaïque, quel va être l'impact environnemental de tous ces matériaux qu'on extrait. Il y a aussi l'impact sanitaire des matériaux qu'on utilise, par exemple, quand il y a du plomb, ça peut présenter des dangers sanitaires.
Oula, là ça bouge. On est à une traverse polytechnique là, non?
Oui, je crois. Oui.
Ouais, ok. C'est toujours mouvementé les voyages dans le bus ici. Donc c'est des recherches. Est-ce que tu dirais que c'est de la recherche appliquée? Et est-ce que vous avez des partenariats avec le privé par exemple?
Alors moi je ne travaille pas directement avec des partenaires privés, j'ai un financement ministériel.
D'accord.
Mais effectivement, ces recherches se font aussi, par exemple, dans le cadre de l'IPVF, et juste là, l'Institut pour le photovoltaïque d'Île-de-France, où c'est un institut de la transition énergétique, qui mêle des partenaires publics comme le CNRS, l'École polytechnique, et des partenaires privés comme EDF et Total.
D'accord, ok. Et pour toi, c'est important d'avoir plusieurs instituts au même endroit, sur le plateau de Saclay, pour pouvoir collaborer facilement avec des gens?
Effectivement, c'est plus simple d'avoir des collaborations scientifiques. Mais est-ce que c'était le bon endroit pour le faire sur ces terres agricoles qui étaient assez fertiles quand même? Et donc là, c'est l'urbanisation qui vient prendre encore des territoires agricoles en Île-de-France. Donc là en particulier on parlait avec le confinement de souveraineté alimentaire, de ces choses là, de produire local, et là c'est un recul sur ce point là d'avoir bétonisé le plateau.
Oui, on en a parlé une fois dans The Meta News de la ligne 18 du métro, qui est un projet dont la construction a dû démarrer déjà. Il y a eu pas mal d'opposition, à la fois de la part des agriculteurs, mais aussi de la part de certains chercheurs qui estimaient que c'était pas forcément utile d'avoir une ligne de métro. Déjà qu'il y a ce bus en fait qui fait ce trajet entre Massy et le plateau, et il faut dire qu'il a une voie dédiée, donc il va relativement vite. Et donc voilà, il y a eu quand même une opposition de certains chercheurs face à cette ligne 18. Est-ce que toi tu te sentais concerné par ce sujet?
Alors déjà, avant la ligne 18, il y avait déjà des oppositions pour dénoncer le fait que ce soit davantage un projet immobilier que scientifique, où c'est les acteurs du BTP à qui on a donné le plus de milliards, et que ça n'a pas été une occasion pour les instituts scientifiques de vraiment se développer. Et puis donc oui, il y a la ligne 18 où là on en parle toujours, Il y a eu un camp d'Extinction Rebellion en septembre ou octobre, là, avant le confinement, justement pour dénoncer la bétonisation de terres agricoles, et que c'était pas un projet vraiment utile et que ce serait à peine peut-être même pas rentable parce qu'il n'y avait pas tant de gens que ça d'intéressés. Il y a Jean-Marc Jancovici aussi qui est ingénieur, qui s'intéresse aussi aux questions de développement durable, qui a dit que la ligne 18 ne remboursera jamais le CO2 nécessaire à sa construction. Donc voilà, il y a des critiques de beaucoup de personnes sur le sujet.
On est où là ?
À côté du CEA là.
Ok. Parce que les vitres sont toutes embuées, donc on voit pas grand chose. Est-ce qu'il y a dehors ? Tu surveilles l'arrêt ?
Je vais descendre au prochain.
Au prochain déjà ? Ok, d'accord.
Ça passe vite.
Ouais, ça passe trop vite. Pour terminer sur une note un peu d'avenir, est-ce que tu sais ce que tu as envie de faire après ta thèse ?
J'aimerais bien devenir enseignant-chercheur.
D'accord.
Pour l'instant, j'envisage plutôt de quitter l'Île-de-France. Moi, je suis pas originaire d'ici. Il y a trop de monde pour moi dans le coin, quoi.
D'accord. Donc
trop de circulation automobile, trop de monde dans les transports en commun. Je suis pas habitué à ça.
Est-ce qu'il y a une ville dans laquelle tu aimerais aller ?
Pas particulièrement.
Très bien. Et donc, du coup, si tu veux devenir enseignant-chercheur, ça veut dire post-doc avant ? Est-ce que tu veux aller à l'étranger ou pas ? Parce qu'on dit souvent que c'est un peu passage obligé.
J'ai pas d'envie particulière d'aller à l'étranger ni de faire un postdoc. J'espère avoir un poste titulaire le plus rapidement possible pour pouvoir me poser et envisager l'avenir à plus long terme que de passer de postdoc en postdoc ou de contrat. Précaires ou semi-précaires qui vont être qui sont dans le texte de la LPR.
Oui, parce que pour engager sa recherche de manière sereine, déjà qu'il faut chercher les financements, il faut publier le plus vite possible. Si on a un poste, ça fait quand même moins de stress.
Oui, et puis moi ce qui m'intéresse aussi, c'est l'enseignement.
D'accord.
Donc voilà, faire un postdoc que recherche, ça ne m'intéresse pas particulièrement.
Très bien, on te souhaite de réussir et de te revoir bientôt.
Merci.
Merci à toi.